VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est midi à Brazzaville. Des centaines de soldats éthiopiens opérant dans le cadre de la force de l'Union africaine en Somalie, l'AMISOM, se sont retirés aujourd'hui d'une ville du centre du pays. Le départ des Éthiopiens a permis au Shebab de reprendre donc le contrôle d'El Ali. El Ali est la seconde localité abandonnée par les troupes éthiopiennes dans la région ces dernières semaines, après la localité voisine de Mokokori, située à 150 km au sud-est de Beledweyne. Aucune explication n'a été fournie par l'armée éthiopienne sur les raisons de ce départ, mais ce retrait intervient 2 jours après l'instauration en Éthiopie de l'état d'urgence pour une période de 6 mois afin de faire face à un mouvement de contestation antigouvernementale sans précédent depuis près de 25 ans. Mais il n'était pas possible d'établir un lien direct entre les deux événements. Djibouti vit de sa position stratégique. La France, les États-Unis et la Chine se bousculent pour être présents dans ce petit état de la Corne de l'Afrique. Et la Chine vient donc de réaliser un train électrique, le premier du genre sur le continent, reliant Djibouti à l'Éthiopie. Elias Moussa Dawale, ministre djiboutien des Finances, lève un coin de voile sur les retombées de sa position géographique.
Ça lui rapporte très peu. On ne le répétera jamais assez. Si vous voulez la vérité, ces pays payent quelques frais de loyer, on va dire, annuels. Hein. Notamment, prenons l'exemple de 60 millions de dollars américains.
Pas plus que ça ?
Pas plus que ça, c'est 60 millions. Pour la France, c'est 30 millions d'euros. Pour la Chine, c'est 20 millions de dollars. En tout et pour tout, autour de 100-110 millions de dollars par an. Et pendant ces temps, nous offrons plus de 400 millions à 500 millions de dollars sous la forme d'exonération, d'impôts, de douanes, ainsi de suite. Mais l'essentiel ne se trouve pas dans l'argent. Pour nous, l'objectif ne se trouve pas dans le cumul de recettes à augmenter ou à rechercher. Notre apport pour la sécurité internationale, c'est notre contribution.
Elias Moussa Dawale, ministre djiboutien des Finances. Un frère du président sénégalais Macky Sall et l'homme d'affaires australo-roumain Franck Timis ont porté plainte à Dakar contre 11 personnes, dont des opposants et des journalistes, pour diffamation dans une affaire liée à la découverte d'hydrocarbures qui empoisonne le débat politique. D'après l'AFP, les personnes visées par la plainte affirment qu'Aliou Sallou s'est enrichi sans cause, parce qu'il est le frère du président qui aurait facilité son introduction dans le milieu du pétrole. L'opposition a annoncé une marche le 14 octobre à Dakar, avec notamment pour mot d'ordre une meilleure gestion des hydrocarbures, bien que la production des gisements découverts dans le pays, essentiellement du gaz naturel, ne soit pas attendue avant la fin de plusieurs années. La justice sud-africaine a ouvert une enquête contre le ministre sud-africain des Finances Pravin Gordhan, accusé notamment de fraude alors qu'il dirigeait les services du fisc, a annoncé aujourd'hui le procureur général Sean Abrahams. L'annonce des poursuites engagées contre le ministre, qui a la confiance des marchés financiers, a immédiatement provoqué une chute du rand sud-africain qui perdait en fin de matinée plus de 3% par rapport au dollar. Chantre de la lutte contre la corruption, selon l'AFP, le ministre des Finances s'est souvent opposé au président Zuma, mis en cause dans plusieurs scandales financiers sur la gestion des entreprises publiques en Afrique du Sud.
Vous êtes sur VOA Afrique, à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
Au Congo-Brazzaville, le procureur de la République a accusé de terrorisme dans le pool Frédéric Bitsamou, plus connu sous le nom de pasteur Ntoumi. Brazzaville traque donc le pasteur Ntoumi et ses hommes dans ce département du sud de la capitale, tandis que ces derniers affirment se défendre avec des fusils de chasse. Le porte-parole du pasteur Ntoumi, Franck Eloge Mpassi, a déclaré que c'est plutôt l'armée qui terrorise les populations avec des bombardements par hélicoptère.
On le dit, qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. Entre le bombardement d'un hélicoptère et l'utilisation d'un calibre 12, qu'est-ce qui terrorise mieux la population? Il faut qu'on regarde ces rapports de force. Ce que nous demandons, nous sollicitons que les deux camps dialoguent. C'est le dialogue qui va régler le problème.
La société civile congolaise appelle à un dialogue entre les deux parties. Luamba Moke, le président de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral.
Depuis 1993, le pool est toujours dans des difficultés. Et lorsqu'il y a un événement malheureux dans notre pays, le pool est toujours à la tête, le pool est toujours concerné. Donc c'est le chef de l'État doit se lever pour prendre des décisions, et des décisions courageuses pour effectivement, et ces décisions pour nous c'est le dialogue.
Direction maintenant le Cameroun. Le pays de Paul Biya est en guerre contre la pêche illégale. Ce pays a déployé sa marine de guerre pour intercepter les chalutiers opérant sans permission dans ses eaux territoriales. Le correspondant de la VOA, Moki Edwin Kinzeka, s'est rendu dans la ville côtière de Limbé, dans le sud-ouest du Cameroun. Le récit est de Lionel Gaïma.
15 marins camerounais armés patrouillent en haute mer à la recherche de bateaux de pêche qui pillent et exportent les ressources halieutiques du pays. En deux semaines, ils ont arraisonné 6 bateaux chinois, a révélé le lieutenant-colonel Emmanuel Sonnet, le chef de la marine de guerre camerounaise dans le sud-ouest du pays. Les preuves sont claires. Ces gens attrapent des espèces dont la pêche est interdite dans nos eaux. La nuit dernière, la patrouille maritime a découvert d'autres bateaux. La pêche illicite excède nos capacités opérationnelles, mais nous faisons de notre mieux. Le pays de la région accuse les Chinois, mais des Africains sont aussi impliqués dans cette activité, notamment des Nigérians, des Ghanéens et des Kenyans. Selon le responsable de la pêche dans le sud-ouest du Cameroun, Walter Ndi, certains chalutiers chinois sont enregistrés au Cameroun, mais refusent de respecter les normes. Les chalutiers se livrant à la pêche industrielle ne sont pas censés aller à plus de 3000 nautiques des zones côtières. Dans les zones de la pêche artisanale, ce sont des zones de reproduction nécessaires à une gestion durable de nos ressources halieutiques. Conséquence de cette concurrence déloyale, les prix du maquereau, principal poisson consommé dans la région, a doublé, déplore la présidente de l'association des pêcheurs de Limbé, Madame Serra Epoulé-Comé.
Si vous allez au marché maintenant, vous ne trouverez que des petits poissons. Vous ne verrez rien de bon.
La communauté locale est très remontée. Selon des témoignages, des pêcheurs étrangers ont été battus la semaine dernière à Limbé et leur matériel de pêche a été confisqué. Lucie Ekema vend du poisson qu'elle achète aux pêcheurs locaux.
Les Chinois ont leur filet qu'ils jettent en mer et tous les poissons, y compris les petits, sont pris. Et lorsqu'au matin, nos pêcheurs vont en mer, il n'y a plus de poissons.
Un rapport publié en début d'année par l'Institut de développement d'outre-mer, un cercle de réflexion britannique, identifie la côte ouest de l'Afrique comme l'épicentre de la pêche illicite non réglementée. Ce sont les communautés locales qui payent le prix.
En Guinée, c'est aujourd'hui le premier anniversaire des élections présidentielles de 2015. Human Rights Watch et Amnesty International, à cette occasion, ont publié hier un communiqué conjoint pour dénoncer l'impunité après les violences qui ont entouré ce scrutin. Les deux organisations de défense des droits de l'homme pressent les autorités guinéennes d'agir afin que, je cite, « les membres des forces de sécurité et les groupes liés aux partis au pouvoir et à l'opposition répondent de leurs actes pour le meurtre de 12 personnes ». Pour les viols et pour le pillage de plusieurs marchés à Conakry.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, Hillary Clinton attaque aujourd'hui les 4 dernières semaines de la campagne présidentielle américaine avec le vent en poupe, alors que le camp républicain semblait avoir abandonné tout espoir dans les chances de Donald Trump de l'emporter. Le très influent Paul Ryan, président de la Chambre des représentants, a annoncé à ses députés qu'il ne défendrait pas ou ne ferait pas campagne pour Donald Trump, une façon de dire qu'il coupait tout lien avec le candidat de son parti à la présidentielle du 8 novembre. Un sondage NBC Wall Street Journal publié hier donne maintenant Hillary Clinton une avance de 11 points sur Donald Trump. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a réclamé la création d'un organe indépendant pour enquêter sur les violations des droits de l'homme au Yémen après la mort de plus de 140 personnes dans des frappes aériennes contre une cérémonie funéraire. Et puis, Israël a bouclé les territoires palestiniens ce mardi et placé sa police en état d'alerte à Jérusalem pour parer à tout attentat contre les dizaines de milliers de fidèles attendus à Jérusalem pour la fête la plus solennelle du calendrier juif. Israël entre en effet aujourd'hui dans la période des fêtes de Yom Kippour et Sukkot sous le choc d'un attentat commis dimanche dernier. Le meurtre de deux Israéliens par un Palestinien, ensuite abattu par des policiers, fait craindre un nouveau cycle de tensions un an après. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi sur le continent et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.